Vous êtes bien sur le 93.9 FM, vous écoutez RNG.
First, the basics of particle blast deflection.
Dude, I could beat gaming.
Bonjour, bonsoir à tous. Vous êtes bien sur RNG, Radio N Gaming 93.9 FM, Radio Campus Paris. Aujourd'hui, comme toujours, je suis en compagnie de mon ami et collègue Ulysse Combasson.
Salut Swill, comment tu vas ?
Ça va bien, ça va super. Et aujourd'hui, sujet un peu, en vrai un peu spécial, parce que c'est la première fois qu'on fait un sujet vraiment, on va dire, chronologique, où vraiment on s'attarde sur une année spécifique. On n'a pas pris 2000 ans à choisir une année. Franchement, ça a été rapide, net. On s'est dit, il faut qu'on parle de 2007. Pourquoi 2007 ? Parce que c'est une année légendaire, tout simplement. C'est-à-dire, pour chaque gamer de notre génération, il y a quelque chose avec 2007. Il y a vraiment un côté de... C'est une année qui est mythique, vraiment. Surtout en Occident, dans l'histoire du jeu vidéo. Il y a quelque chose avec cette année-là. Il y a vraiment un truc de... Ouais, si vous êtes né début 90, fin 90, début 2000, normalement, il y a un jeu de 2007 qu'on connaît, tu vois, il y a forcément un truc, on est d'accord sur cette année, tu vois. Et c'est vraiment une année, beaucoup de nostalgie, c'est une année vraiment spéciale, et même au-delà du jeu vidéo, il passe des choses en 2007, en règle générale, voilà, économiquement, ce genre de choses, c'est même culturellement. Donc voilà, c'est une année... On voulait vraiment en parler parce que, classique RNG, mais peut-être que ça va nous permettre de mettre en perspective des problématiques actuelles du jeu vidéo. Est-ce qu'il y a encore du 2007 en 2026, c'est ça qu'on veut dire.
Et du coup, pour commencer cet épisode assez spécial, comme chaque épisode évidemment, là, on va commencer avec un peu de contexte. Donc comme l'a dit Swill, c'est une année vraiment légendaire. Hein. Là, ça va faire bientôt 20 ans. On est en 2026, donc 2007, c'était il y a 19 ans déjà. Et ce qui nous intéressait avec Swill, c'était de faire un peu une rétrospective de pourquoi c'est une année qui nous parle autant, où il semble y avoir eu des titres absolument fous, mais pendant toute l'année, vraiment de janvier 2007 à décembre 2007. Et donc pour commencer, on va juste contextualiser déjà. Genre 2007, c'est la suite de 2006, voilà, pour l'instant vous me suivez. Et donc, on va faire une petite piqûre de rappel avec juste l'état de l'industrie, au moins en Occident, et des constructeurs. Notamment par rapport à la PS3, donc de Sony, qui est sortie en 2006.
En novembre.
En novembre 2006, donc vraiment, ça fait que quelques mois à ce moment-là. La 360, qui est sortie, elle, en fin 2005, et du coup, qui est là déjà depuis un an et quelques, qui a achevé sa première année avec, je crois, 10 millions de ventes à travers le monde. Et la Wii, DS, etc. Donc, pour la piqûre de rappel, au moins du côté de Sony... pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode sur la PlayStation, notre rétrospective d'il y a quelques mois, c'est la catastrophe. Vraiment, c'est Sony, il y a eu l'E3 2006 avec le « Networking for PS3 is essential as the air that we breathe ». Donc, Internet pour la PS3, c'est aussi essentiel que l'air qu'on respire, tout ça, donc vraiment le côté online et tout. Et voilà, Sony sortait de l'ère PS2 avec une arrogance évidente, vu que ils avaient la meilleure console jamais faite. Ils l'avaient vendue comme des petits pains, tout le monde aimait la PS2, tout le monde attendait la PS3, et donc ils ont été hyper coquilles. Et le lancement, en fait, avait été catastrophique, donc fin 2006, avec un prix annoncé de 600 €, tout le monde pétait son crâne quoi, en disant « mais c'est une console beaucoup trop chère ». Il y avait donc le PS Store qui était juste un site internet, les jeux qu'on montrait en 1080p, donc Full HD, c'était des jeux PS2, notamment la démo de Gran Turismo HD. Et la présentation avait beaucoup parlé de la PSP, alors que tout le monde voulait voir le futur, en fait, de Sony. Donc ça, c'était pour l'état des lieux, un peu, du côté de la PS3. Et côté Xbox, avec un an d'avance, ils avaient eu du Gears of War qui était sorti, le online qui commençait vraiment bien à démarrer, et tout le monde vraiment adorait cette console, quoi. Quand on parlait de l'épisode sur Microsoft, il y avait un truc où Xbox, c'était pas Microsoft, c'était encore l'image de la console pour les gamers, pour les hardcore gamers. C'était la plateforme vraiment, vraiment cool, vraiment jeune, qui a cette espèce d'énergie un peu teen. Et donc là, en un an, ils avaient réussi à séduire un peu tout le monde avec un gamepad, donc un contrôleur super. Et côté Nintendo, bah, eux, en fait, voilà, ils étaient vraiment dans leur bulle avec du coup la Wii qui était sortie, je ne sais plus en quelle année.
En bah, 2006, une semaine avant la PS3.
Une semaine avant la PS3, ouais. Voilà. Donc la Wii, voilà, qui paye déjà un petit raz-de-marée grâce donc, à Wii Sport, Mario Kart Wii, et qui va, on va le voir après plus tard, au fil de la génération, mais du coup, séduire un peu les petits et les grands, ce côté de avec putain, des vidéos, voilà, avec la DS, le professeur Kawashima, tout ça. Donc c'est. Vraiment, genre, trois états des lieux, déjà, pour contextualiser où sont chacun des constructeurs. Sony qui était vraiment un peu en déroute et qui avait du mal à se relever d'une image qui, d'un coup, s'était brisée. La PS2 les avait assis, en fait, comme les rois du monde. La 360, qui, bon élève de la première Xbox, commençait vraiment à gagner en force. Et Nintendo, qui était sur son petit nuage et qui, là, prenait des bonnes
rythme
leçons.
Rythme de croisière, tout simplement.
Voilà, c'est ça. Et du coup, dans ce contexte-là, je pense qu'on va pas tourner autour du pot. Moi, ce qui, je pense, est intéressant, c'est de parler des jeux. Les jeux qui sont sortis cette année-là. Pourquoi l'année 2007 est un tournant dans le jeu vidéo ? Eh bien, à cause des jeux qui sont sortis cette année.
C'est aussi simple que ça.
Voilà. Donc moi, je l'ai un peu découpé par genre, tout simplement. Donc, dans le FPS, quels sont les FPS sortis cette année qui ont marqué l'industrie, qui sont des jeux dont on peut encore parler actuellement et voir leur influence encore aujourd'hui dans des titres qui sortent, notamment genre, je sais pas, des jeux comme Highguard, n'est-ce pas ?
Oh la vache !
Pas du tout. Oh Mais voilà. Mais du coup, pour commencer, voilà, j'avais envie de parler du FPS, parce que je pense que la génération, je pense que tu vas être d'accord avec moi, Squid, mais la génération PS3 360, oui un peu, mais tu sais, pour moi, c'est la génération du FPS.
Ouais, du FPS d'action.
Ouais, c'est vraiment la génération où chaque année, ce qui trônait, donc là on parle de 2007, hein, mais même année 2010, 2008, 2009, chaque jeu qui sortait et qui était le jeu le plus vendu, c'était un Call of, il y avait du Medal of Honor vite fait à côté, mais qui était en déroute.
Battlefield.
Il y a eu du Battlefield, exactement. Mais COD, c'était un événement, quoi. Mm-hmm. Et ça a été un événement grâce notamment au premier Modern Warfare, qui est en fait l'invention du FPS moderne, hein, tout simplement. Moi, je me suis mis sur la fiche technique. Voilà, c'était un jeu qui visait le 60 FPS. Et il y avait ce truc où on ne l'avait pas conscientisé. Moi, j'étais très jeune. Hein. Le jeu est sorti, j'avais 8-9 ans, mais j'y jouais. Où c'était hyper dynamique, c'était hyper vif. Quand moi, je me rappelle avec des amis, on rentrait de l'école, on faisait des games. Et tu sais, au sniper et tout, des 1v1, des trucs comme ça. Et en fait, c'était hyper genre...
Nerveux.
Nerveux, exactement.
Il y avait ce truc qu'avait Call of à l'époque, c'était que ça dénotait des Medal of Honor ou même des précédents opus. Que ce soit le World at War ou quoi, c'était vraiment, il y avait ce côté, bah déjà, cet aspect un peu guerre moderne, et que le marketing a vraiment réussi à... Le marketing a été hyper puissant de la part de Call of Duty à cette époque-là. Vraiment, il y avait un truc de... C'est horrible, hein, ce que je veux dire. C'est la guerre, mais cool. Genre, c'est vraiment un côté de c'est nerveux, c'est un film d'action hollywoodien. Non, franchement, il y avait ce truc de... Il y avait Call of et le reste à l'époque, un peu.
Ouais, non, mais exactement. Et une des influences qu'on peut voir, c'est qu'en fait, c'est le jeu qui a tout simplement en fait, inventé le système de progression multijoueur. Ça paraît fou comme ça de le dire, mais il y a plein de jeux qui ont laissé des marques dans les FPS modernes. Hein. Le premier Halo, c'était l'idée de le bouclier qui se recharge, genre le ou d'un coup, voilà, donc vous mourrez pas dès que vous avez pris des dégâts, si vous avez une deuxième jauge de santé. Et Call of, en 2007, ce qu'ils inventent, c'est le système de progression. Ça veut dire les niveaux, les avantages. C'est les killstreaks tout simplement là où avant ça donc on parlait de Halo mais on peut parler de Unreal Tournament notamment c'était des jeux où tout le monde partait avec le même starter, les mêmes armes et si vous vouliez gagner une partie dans ces arènes ou autre, c'était une question de skill tout simplement, il n'y avait pas spécialement d'avantage à être le meilleur, à enchaîner des triples quadruples kills etc, juste vous étiez bon là où Call of te dit attends là tu viens de tuer 3 personnes, bah, t'as peut-être droit à une petite radio, t'as droit à un drone, t'auras le droit du coup à un hélicoptère d'assaut, ce genre de choses. Et bah, tout simplement, on le voit partout dans n'importe quel FPS qui se veut un petit peu nerveux, qui se veut très casu, entre guillemets. Bah, ça va être des dynamiques qui sont maintenant adoptées. En fait, ça fait partie de la grammaire juste de ce genre de FPS multijoueur. Et c'est quand même ce Modern Warfare, cet épisode donc contemporain de guerre moderne, qu'il a installé. Donc, on lui doit ça. Et puis, la campagne était aussi à l'époque... Très, le truc qu'on dit blockbuster hollywoodien, ça a quand même aussi beaucoup
La qualité, hein, franchement, ouais. Code 4 et du coup Modern Warfare et ce que sera Modern Warfare 2, qui sortira dans quelques années, qui sera aussi un blockbuster absolument énorme. Il y avait ce côté de... Ouais, l'histoire principale était franchement alléchante, même encore aujourd'hui. La campagne, on appelait ça. Franchement cool, hein, franchement cool. Même pour les Black Ops aussi, l'histoire vraiment chouette. Il y avait quand même ce gage de qualité-là qu'on a un peu perdu avec le temps, là où
surtout
aujourd'hui,
si on compare,
ça c'est vraiment... positionné sur le multijoueur et du Battle Royale, ce genre de choses. À l'époque, il y avait quand même ce côté de, on attendait quand même la campagne, quand même Modern Warfare 3, je pense que c'était ça aussi la hype à l'époque. C'est vraiment le côté, ah, on attend la campagne, on veut savoir c'est quoi la suite de l'aventure.
Bah moi, je sais que Modern Warfare 2, que Modern Warfare 1, là, je le cite beaucoup de façon très théorique, parce que moi, j'ai un peu joué en multijoueur, mais j'ai surtout joué à MW2. C'est vraiment celui que j'ai torché, tout ça. Et ce qui est assez amusant, c'est que j'avais donc commencé la campagne à l'époque, mais ça m'avait plu, mais sans plus. Là, au Modern Warfare 2, je me souviens qu'à l'époque, il y avait la démo sur 360, où c'était le passage dans la neige avec le jet ski et
avec
tout.
Roach
et pour moi, t'es là en train d'escalader une montagne, c'est, et tout. T'as le mec qui balance sa clope, je sais pas quoi, t'as les avions qui passent.
C'est taré.
C'était une ambiance et un travail de mise en scène qui ouais, au fait, aucune boîte de jeux vidéo pouvait faire ça parce que le budget que ça demandait était énorme. Et ouais, MW1, c'est les préambules de ça. Et donc, c'est quand même un jeu hyper, hyper, hyper important. Maintenant, après, dans le FPS, il y en a un deuxième que je me suis noté pour une autre raison, mais qui reste aussi vachement multijoueur, mais c'est Halo 3 par Bungie. Parce que c'est Halo, parce que c'est Xbox, parce que c'est le moment où ils sont sur le toit du monde, que c'était un des jeux les plus attendus de tous les temps, que c'est le jeu qui a rapporté le plus d'argent en une journée. À l'époque, c'était vraiment le jeu où il avait brassé je sais plus combien de centaines de millions de dollars en un jour de vente. Et voilà, c'est une campagne qui est absolument incroyable. Je trouve que c'est Bungie qui est au sommet de son art. Bah, c'est leur avant-dernier Halo, alors après il y a eu ODST et Reach, où ils ont lâché la licence. Mais c'est absolument fabuleux. Juste déjà à jouer en tant que tel, le jeu était vraiment beau. Et ce qui, moi, n'était pas forcément mon expérience, mais a beaucoup marqué les joueurs, et ça, je trouve que c'est fou de voir l'influence que ça a eu. Bah, en fait, c'est le mode Forge. C'est de voir que l'héritage de Halo, bah, c'est ce côté replay, cinéma, de mettre un peu en scène tes parties. Et pour moi, c'est assez, c'est un peu le porte-étendard de la présence d'un jeu vidéo sur les réseaux sociaux. Cette idée de, ouais, tu mets des parties de gameplay, tu veux voir des espèces de montages d'enchaînement de kills et tout, de
frag movie.
Exactement, de frag movie. Genre Call of avait ça, mais Halo 3, c'est ce truc avec le mode cinéma où ça pousse le truc en termes de style. Et avant que les réseaux sociaux soient aussi mis en avant, c'est vraiment un jeu qui est déjà hyper social en fait. Il y avait déjà des jeux sociaux, il y avait plein de jeux multijoueurs. On en a parlé dans notre épisode sur le multi. Mais Halo 3, je trouve que c'est un peu l'apogée du Xbox Live en fait. Et du coup, c'est un jeu qui a une trace de fou et qui, je pense, là aussi est dû à de la nostalgie. Parce que Halo n'est plus ce qu'il était, enfin, c'est plus que l'ombre de ce que c'est. Mais c'est un jeu qui est vraiment fou. Et dans le dernier FPS que je voulais citer, je sais pas si toi, Soul, tu l'as fait, je voulais parler de Crysis.
Non, j'ai pas fait Crysis.
Le premier, du coup, par Crytek, bah, c'est le fameux même Can It Run Crysis. Donc le benchmark légendaire pour tous les PC pendant 10 ans de est-ce que ton PC peut faire tourner des talons graphiques. Parce que c'était un jeu hyper novateur, en fait. C'est un jeu hyper dynamique. Où donc l'équipe de Crytek, qui est allemande, ont voulu faire une sorte de démo technique, et donc où on joue un nomade, mais je sais plus si c'est le nom du perso, qui donc a une sorte de nano-suit, une nano-combinaison, et on débarque sur une île où on sait pas trop ce qui se passe, de base c'est une sorte d'ingérence, où on veut essayer de voir ce qui se passe avec les locaux. Limite au Vietnam un peu ce genre de dynamique, et finalement il y a des aliens et tout, et c'est pas très bien. En vrai, Crazy, c'est pas un jeu incroyable, mais... C'est un jeu où, si vous regardez des vidéos actuellement, même de mode ultra reshade et tout, le truc a pas pris une ride, en fait.
C'est un jeu culte, hein.
Et moi, en fait, ce que j'aimerais dire, c'est que, oui, c'est un jeu imparfait, parce que au bout d'un moment, on se fait chier, ça devient très couloir. Genre, l'ouverture qui est au début, vite fait, le jeu s'en éloigne pour aller dans cette espèce d'histoire de série Z qui tiennent pas avec ces aliens à la con. Mais le début, genre les premières heures où donc on voit des avant-postes qu'il faut attaquer, vous avez une ouverture totale avec la forêt, vous pouvez vous camoufler, avoir votre force pour balancer des bidons d'essence, les faire exploser, vous avez des véhicules et tout. En fait, ce qu'on loue, je trouve, beaucoup dans des Breath of the Wild, dans des Far Cry qui sont venus aussi, qui existaient à ce moment-là, mais qui se sont libérés avec Far Cry 3 et tout, c'était présent dans Crysis, en fait. C'est un jeu qui, dans ses premières heures, vous pouvez faire ça en boucle.
Très sandbox.
Ouais, exactement, très sandbox. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on a mis du temps à retrouver, qu'on a retrouvé il y a un ou deux ans avec Avatar Frontiers of Pandora, qui est vraiment, je pense, un héritier de Crysis sur l'espèce de forêt et tout dynamique. Et c'est surtout ça, c'est se dire qu'en 2007, faire un jeu avec des éclairages dynamiques, des shaders du coup hyper compliqués, de la physique de partout, genre s'il y a un pont, il y a des trucs qui tombent, le pont peut s'effondrer, les structures des bâtiments, pareil, peuvent être détruites par les chars qui roulent dessus et tout. En fait, on a eu une espèce de phase, je trouve, dans les années 2010, où on a eu des jeux très figés. On a eu des jeux genre très beaux, genre l'exemple que tout le monde voit sur les réseaux sociaux comme Twitter, Blue Sky, peu importe, Uncharted 4, en mode, tant le jeu a pas pris une ride, ça fait 10 ans il est sorti et tout. Ça reste un jeu qui est assez figé dans ses salles, dans ses panoramas. Ils disent, vous explorez la jungle, vous pouvez totalement la détruire en fait, sur ce premier niveau. Et donc je pense que c'est une espèce de regard vers l'avenir, genre un moment de jeu vidéo où on se dit, putain, genre, est-ce que tous les jeux vont être comme ça? Non, pas en 2007. Mais 20 ans après, quasiment, on se dit, bah, putain, on arrive avec le ray tracing, avec des méthodes plus modernes et avec des moyens qui maintenant peut-être ont pu baisser aussi, avec des petites équipes, avec l'Unreal Engine, tout, tu peux faire des trucs assez impressionnants, bah, de retrouver cette espèce de liberté avec des machines aussi plus puissantes. Et donc, je trouve que c'est une belle... si vous rejouez au jeu vraiment de base et pas au remaster, je trouve que c'est une belle façon de voir comment on percevait l'avenir du jeu vidéo. Vraiment se dire que Crysis, c'était l'avenir du jeu vidéo. On s'est dit, c'est à ça que ça va ressembler. Et donc, je trouve ça assez fascinant. Et à côté de ça, il y a un jeu dont j'ai envie de parler brièvement. À chaque fois, je n'ose pas trop en parler en long et en large. Là, je vais quand même en parler vite fait. C'est Bioshock, qui est du coup le meilleur immersive sim jamais fait.
Est-ce que peut-être c'est pas juste le meilleur jeu de 2007?
Est-ce que c'est... Moi, je pense que c'est le meilleur jeu de 2007.
Il y a deux, trois concurrents quand même, parce que on peut énumérer rapidement les jeux majeurs. Parce que 2007, ouais, moi j'ai marqué rapidement Bioshock, Call of Duty 4, Mario Galaxy, Assassin's Creed quand même, Halo 3, Mass Effect, Uncharted, Portal, Team Fortress 2, jeu extrêmement important. Et au-delà de ça, on a vraiment des jeux aussi qui viennent. Je pense à c'est aussi 2007, c'est l'année de The Witcher. Genre, ok, The Witcher 1 à l'époque, ça n'a pas fait un gros bruit et tout, ça restait assez niche, mais c'est l'année qui a vu l'avènement d'une saga qui va devenir absolument culte d'ici 15 ans, dans la pop culture tout simplement. Donc, ouais, je pense que Bioshock est le meilleur jeu dans tout ça.
je suis d'accord. Moi, genre, je trouve que, en fait, Bioshock, il y a un peu un avant et un après, en fait. C'est qu'il y a eu les System Shock, il y a eu du Deus Ex, il y a eu des jeux donc d'immersive sim hyper poussés. Bah, System Shock, c'est Ken Levine. Et voilà, donc, tout le monde attendait un peu de voir qu'est-ce que ça va être Bioshock et tout. Je me rappelle des bandes annonces, ça avait intrigué énormément de monde. On se dit, est-ce que c'est du jeu d'horreur, survival horror? Est-ce que c'est vraiment plus action? Est-ce que c'est ouvert, fermé? Et en fait, quand on débarque dans Rapture, c'est un monde qui est tellement fascinant. Et je pense que moi, il y a deux éléments que je me suis mis pourquoi c'est un jeu qui a une influence énorme et qui est un des meilleurs jeux de tous les temps aussi, au-delà de l'année 2007. C'est qu'il y a des jeux comme ça qui présentent le médium en mode... c'est des porte-étendards. Genre, Swill parle beaucoup parfois de...
Fumito Ueda,
par rapport à...
Shadow of the Colossus.
Shadow of the Colossus, Ico... où tu te dis c'est de la poésie, genre c'est le jeu vidéo entre guillemets qui sort de son cadre de ah c'est juste du divertissement, c'est juste là pour être fun. Et Bioshock, c'est un jeu qui est basé du coup sur des thématiques philosophiques, donc l'objectivisme d'Ayn Rand, et en fait c'est un jeu qui est éminemment politique vu que c'est une sorte d'antithèse de ça, c'est une sorte d'exploration un peu de ces thématiques, justement Ayn Rand, Andrew Ryan, et donc c'est une sorte d'expérience de ok, si on prend toutes les théories de ce bouquin, que moi j'ai pas lu mais dont je vois à peu près les tenants et aboutissants, ok, on va l'éprouver et voir qu'est-ce qui en ressort. Et en fait, je trouve que c'est une finesse qui est assez folle. Moi, il y a un élément, ça va être un spoil, mais je suis sorti il y a 20 ans, c'est le paradoxe vis-à-vis du libre-arbitre, en fait, mais qui est inhérent au jeu vidéo. L'idée de, est-ce que ce qu'on fait, c'est parce qu'on a envie de le faire, ou parce que le jeu te dit de le faire, c'est un objectif et tout. Et donc, le coup de grâce, voilà, c'est quand on parle de Andrew Ryan, donc, qui a créé Rapture, une cité sous-marine, une sorte d'utopie capitaliste, vraiment sur l'égoïsme, un peu genre chacun fait ce qu'il veut, il n'y a pas de censeur, il n'y a pas de limite. C'est pour ça que la devise, c'est ni Dieu, ni roi, seulement des hommes. Et bah, elle a cette limite quand nous, en tant que joueurs, on essaie un peu de sortir, on fait nos petites missions, parce que Atlas, un personnage nous dit « Est-ce que vous pouvez faire ça pour moi, je vous prie ? Would you kindly ?» etc. Donc pendant tout le jeu, on vous demande de faire des choses que vous n'allez pas remettre en question. Et à la fin, on découvre en fait que c'est une sorte de conditionnement mental. En fait, que le joueur répond à cet appel, donc à ce « Would you kindly ?» je vous prie, de façon automatique. Et donc, en effet, on va d'un objectif à un autre sans se poser la question de pourquoi on le fait. C'est le jeu vidéo, on veut aller au bout. Et donc, le jeu suggère forcément que bah, la liberté totale prônée par Andrew Ryan, c'est une illusion. Et donc, je trouve que c'est un jeu qui est tellement méta sur ce truc-là de on reste dans un cadre, en fait. On reste dans un cadre qui nous est imposé. Il y a des jeux qui veulent briser ce cadre-là, évidemment. Mais c'est un jeu qui arrive tellement à théoriser dessus, à mettre en perspective un bouquin qui a l'air, du coup, hyper intéressant. Et je trouve que avoir une force intellectuel pareil dans un jeu vidéo, de prendre le médium et se dire, c'est pas juste on fait un truc fun, c'est vraiment genre on réfléchit un peu à la forme du jeu. Je trouve ça absolument fabuleux. Et un dernier élément que je trouve aussi assez cool, là c'est plus en termes de game design, genre je sais que Soul aime beaucoup les survival horror, les audiologues, c'est un truc qui était déjà présent à l'époque, mais là, je me suis refait ça en rejoignant à Control ou autre, genre t'as l'idée que quand tu prends un audiologue, tu peux continuer à jouer. C'est pas genre tu t'arrêtes, tu dois lire ton papelard ou ok, non, faut que t'écoutes le bail. Non, non, vous récupérez un enregistrement, il va vous faire vivre le monde de Rapture qui maintenant n'est plus qu'une dystopie, donc la vie antérieure. Et vous apprenez que bah ouais, tel mécano, là, tain, il a galéré à réparer tel truc. Il avait
très bien doublé en plus.
C'est hyper bien doublé. Et tu sais, c'est une narration environnementale qui est tellement juste. Et en fait, il y a un avant, un après de comment on le fait. Avant ça, c'était très mécanique de casser des indices, des codes. L'immersive sim, c'est ça. Code pour ouvrir une porte. Dans The Last of Us, c'est pareil. Hein, c'est pas l'immersive sim, mais c'est genre quelqu'un a laissé un sandwich dans le frigo. Et quand tu retrouves le sandwich, il écrit genre ah bah au fait, le code du coffre-fort de la boîte, c'est. Et là, d'un coup, le jeu te fait ça de façon hyper, hyper discrète, vraiment de te raconter ce qui s'est passé avant toi. Et je trouve que c'est génial. Il faut jouer à BioShock, en fait.
Le tout dans un monde qui est, mais en termes de world building, encore aujourd'hui, je pense qu'il y a très peu de jeux qui arrivent au niveau de Rapture. Moi, BioShock, ce qui est intéressant, c'est que c'est un jeu que j'ai fait récemment. Je ne l'ai pas fait à l'époque. J'aurais pu le faire. C'est juste un jeu qui est juste passé à côté. Mais je l'avais toujours en tête. Genre, je voyais toujours cette image. C'est le Big Daddy, c'est ça?
Ouais.
Sorte de méca un peu, de gardien énorme avec son armure. Et aujourd'hui, c'est juste une leçon de world building. Je pense qu'il y a très peu de monde qui ressemble à... qui ont le... Il y a très peu de monde qui sonne comme Rapture. Limite, c'est un jeu qui a une odeur, en fait, quand t'es dedans. Mmh. Il y a des effets tout bêtes sur l'écran, de quand tu passes sous l'eau, il y a des gouttes.
Le moteur graphique, à l'époque, c'était l'Unreal Engine 2.5. Et même ça, l'eau, c'était révolutionnaire. Moi, je me rappelle, c'est le début du jeu, c'est quand tu débarques dans les tunnels et ils se mettent à se remplir d'eau, l'effet de transparence, c'était fou. Donc, ouais.
Non, BioShock, jeu absolument majeur à refaire. Je pense que si on doit retenir qu'un seul jeu de 2007, ce serait ça.
Et voilà, et depuis, bah, des FPS hyper narratifs, avec comme ça, genre des enjeux. On en a eu, n'est-ce pas, Atomic Heart?
Et bientôt The Cube.
En tout cas, on voit qu'il y a eu un shift, il y a un avant, un après. Et des BioShock-like, on en voit. Je crois que c'est cette année ou l'année prochaine qu'il y a Clockwork.
Il y a Clockwork. Oui, je vois ce que tu veux dire. Oui,
ouais.
C'est bête, s'il n'y a pas BioShock, il n'y a pas Dishonored.
Oui, de ouf.
Il n'y a pas Dishonored, tous ces jeux-là qui sont absolument exceptionnels.
Et du coup, ça m'amène au deuxième genre que je voulais aborder. Et là, je vais plus poser une question à toi, Swill. Moi, je voulais parler après donc, des TPS, jeux d'action-aventure. Et c'est quoi ton rapport à deux titres qui sont Assassin's Creed 1 et Uncharted 1 en 2007.
Assassin's Creed 1, franchement, pour moi, c'est une révolution parce qu'il faut savoir que moi, en 2007, je suis tout petit. Hein. J'ai 6 ans, mais j'ai la chance d'avoir des aînés qui sont du coup mon grand frère et mon grand cousin Ismaël, qui lui était qui est né genre en 93. À cette époque-là, il était en plus, il avait ce truc de il avait toujours le dernier jeu. Et je me souviens quand il avait acheté Assassin's Creed sur sa Xbox 360. Pour moi, ça a été. Bon, franchement, Assassin's Creed, il y avait ce truc de c'était un. En fait, c'était un rêve, il y avait un truc de c'est un jeu qui n'existe pas. Je le voyais qu'à travers les trailers, les pubs, et vraiment. Après, vraiment, j'étais enfant, c'est pour ça que. Donc, ouais, genre, franchement, Uncharted, je l'ai découvert un peu plus tard parce que du coup, j'étais très jeune, mais c'est vraiment Uncharted 2 que moi j'ai découvert, et le 3 du coup. Mais je pense que Assassin's Creed, il avait ce truc, surtout en France, il y avait ce contexte de. C'était tellement une énorme production, et je pense que c'est ça aussi en 2007, ce qui fait rêver, c'est que j'étais déjà un gamer avant, mais. Assassin's Creed, il y avait ce truc de, on n'avait jamais vu une production pareille, je pense, en termes d'échelle. Et puis en plus, c'est bête, mais il y avait un truc hyper historique. Moi, j'étais vraiment fasciné par ça. Encore aujourd'hui, genre, ça me fascine l'aspect, la capacité qu'avait Assassin's Creed de la démarche un peu historique de retranscription de ce temps.
Ouais.
Donc, je sais plus si tu m'as demandé est-ce que je devais choisir ou c'était quoi mon rapport.
Non, c'est plus ton rapport aux deux.
Bah, ouais. Assassin's Creed, vraiment, ouais, c'était vraiment. Je pense que c'est vraiment le 2, moi, qui m'a. Parce que j'étais un peu plus âgé, déjà. J'avais déjà les capacités de le faire, Assassin's Creed 1, j'étais vraiment petit. Mais le 1 m'avait vraiment. Parce que vraiment, il y avait ce truc de. J'avais jamais vu ça de ma vie, je pense, encore au trailer. Voilà.
Ouais, non, mais je suis d'accord. Je te posais la question parce que, en fait, moi aussi, j'étais assez jeune, j'avais quoi, 7-8 ans. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est qu'Assassin's Creed 1, je l'ai fait après Assassin's Creed 2. Moi, mon premier Assassin's Creed, en soi, il faut savoir que c'est Brotherhood, donc je l'ai fait en 2010. Parce qu'avant ça, ça m'intriguait, mais j'étais jamais rentré dans la licence. J'étais un peu jeune aussi. Et du coup, j'ai fait un peu une sorte de truc à l'envers, où j'ai fait genre Brotherhood, Assassin's Creed 2, puis Assassin's Creed 1, en 2010. Et du coup, Assassin's Creed 1, j'avais déjà joué chez des potes, chez des cousins, je voyais ce que c'était, mais j'avais jamais fait l'expérience moi-même en main. Et donc, Assassin's Creed 1, j'avais donc 10-11 ans. Et en fait, je l'ai fait sur une semaine quand j'étais malade, j'ai eu une grippe. Vraiment, je suis au collège, 6e, grippe de bâtard qui tombe, pardon.
Amen.
Et toi, du coup, je suis chez moi à manger des sandwichs. Je peux pas bouger, quoi. Mes parents vont au travail. Et je me disais, bah, t'as rien à faire, je vais jouer à un jeu vidéo. Et j'avais Street 1 que j'avais acheté un Easy Cash ou un truc pour pas cher. Et en fait, c'est fou parce que, alors qu'il avait, il était déjà un peu vieillot 2-3 ans après, il a une sorte d'aura, je trouve, qui est vraiment unique. Mais en, qu'on retrouve pas dans aucun Assassin's Creed. Il y a vraiment un truc avec les destinations, genre Masyaf. Je me suis noté, il y avait Jérusalem, tout ça. Mm-hmm. Il y a un truc où Damas, il y a une immersion. Il y a un rapport à l'open world qui est tellement genre organique et qui en soi est aussi mécanique. Il y a des trucs qui tiennent pas, genre l'idée que genre c'était un peu la vanne avant avec Assassin's Creed 2, les personnages ils font la queue pour aller se taper avec toi. Genre tu te bats avec un ennemi, tout le monde attend derrière en mode ok, quand est-ce qu'on arrive ? Et il y a plein de trucs comme ça qui tiennent pas et c'était répétitif, c'est vrai. Mais il y a un truc avec cette espèce de filtre bleu, froid, hyper glacial, l'ambiance que t'avais en marchant dans la rue, juste en te cachant dans la foule. Je trouve que c'est un jeu qui, ce côté un peu d'aura farming en fait, où Altair il avait une espèce de truc de ouf, et le combat de boss est absolument imbattable. Je déteste la fin avec la pomme d'Eden contre je sais plus qui, mais c'est le premier volet qui donne un peu le ton, et où on se dit il arrive à capturer quelque chose, ce qui est un peu souvent le cas avec Ubisoft en fait. Sur leur premier jeu, ils arrivent souvent à capturer une idée, un concept hyper fort, et soit la suite elle l'améliore, notamment Assassin's Creed 2, Watch Dogs 2, Far Cry 2, même si c'est pas eux qui avaient développé le 1. Et après, soit ils tiennent le truc et ils le poncent, ils l'usent jusqu'à la moelle en mode vache à lait, ou alors ils essaient de le renouveler tous les quelques années et tout ça. Mais je trouve que ouais, Assassin's Creed 1, c'est un jeu qui est fort et puis qui a aussi laissé beaucoup de concepts. Tu vois, le bail des tours de synchronisation, où t'es là avec ta vision d'aigle et tout. La vision d'aigle, il n'y a pas un seul jeu, je pense, TPS, action-aventure, qui se dit pas, là, faudrait un peu aider le joueur avec une vision infrarouge, quelque chose, tu vois.
Pas dans Batman. Que vous voulez, on va trouver en long, en large, en travers.
Donc je trouve que c'est un jeu qui a une influence quand même absolument folle, et je trouve que c'était bien de le mentionner parce que déjà oui, c'est une grande licence qui est née à ce moment-là, mais Assassin's Creed, il y a un truc un peu d'aigreur actuellement. Il y aura beaucoup de youtubeurs genre Dunkey, Nike, Jackie, je sais pas quoi, qui vont s'en moquer parce que oui, c'est des jeux, en fait c'est une formule maintenant, c'est des trucs qui ont été essorés, mais en 2007 c'était pas encore une formule. On sortait de Prince of Persia certes, mais passer de trucs couloirs très acrobatiques à un truc hyper ouvert, je dis putain, je peux monter, il y a une verticalité, c'est assez fou. Et voilà. Donc je trouve que ça va cool. Et puis Uncharted 1, moi je l'ai fait pareil très récemment, hein. Je l'ai fait il y a quelques années, je l'avais pas fait à sa sortie, j'avais commencé avec le 3 en plus. Je trouve que ça a vieilli, mais c'est intéressant de voir que Naughty Dog, qui était sur les Jak and Dexter, ont commencé un virage cinématographique, et en soi, c'est les balbutiements de The Last of Us, hein. Genre 2016, c'est déjà ok, comment on trouve la rythmique en fait, la respiration. Donc voilà, et le dernier jeu que je voulais citer moi dans les TPS, un peu monde ouvert entre guillemets, c'est Crackdown. C'était juste un shout-out parce que je trouve que c'est pas un jeu incroyable, et Crackdown c'est une licence qui est décédée. Mais je trouve que c'est aussi le... Non, parce que il a inauguré un truc qui est mort aussi, c'est le côté un peu les jeux à la prototype. Ou à la Infamous. C'est ce truc du genre, ah, monde ouvert, bac à sable, c'est très années 2000.
Just Cause un
ouais,
peu.
Ouais, exactement. Où t'as des pouvoirs, tu fais ce que tu veux. Et la démo de Crackdown, je m'en suis rappelé grâce à Digital Foundry, Richard Leibetter, qui disait que pour lui c'est sûrement la meilleure démo d'un jeu vidéo jamais faite. En fait, t'as accès à toute la carte du jeu, t'as le droit à 30 minutes, et tu level up de façon accélérée. Donc tu débloques tous tes pouvoirs, tous tes éléments pour en soi grind up et t'améliorer dans le jeu en 30 minutes. Pour que t'aies une espèce de shot de dopamine en mode putain, je pourrais faire tout ça, sauter aussi haut, courir aussi vite. Alors que dans le jeu de base, en fait, c'est beaucoup plus lent et puis c'est un peu chiant et tout. Mm. Mais il y a un truc dynamique là-dedans où la démo est absolument super, c'est fun à explorer. Et je trouvais ça un peu cool comme shout-out à faire. Et voilà. Et après, là, il me restait genre deux genres que je voulais aborder. Je sais pas si, Swift, tu voulais parler de la plateforme avec Mario Galaxy.
Non, je parle pas spécialement de...
Moi, j'ai pas grand-chose à dire, parce que c'est apparemment un des meilleurs jeux de plateforme de tous les temps.
Je vais le dire peut-être, je pense que... En vrai, c'est peut-être le meilleur Mario 3D.
Ouais.
Sincèrement, Mario Galaxy, vraiment le premier. Le 2, je l'ai pas fait, c'est pour ça. Mais le premier Mario Galaxy. Oh là là, qu'est-ce que c'est bien. Regardez juste de quoi le jeu vidéo club de Nicolas Doucet, quand il parle de Mario Galaxy, où il dit ouais, ok, on est en 3D, mais on est plus que dans la 3D. Le fait qu'on soit sur des planètes et que du coup, il y a un aspect de profondeur. Les mecs, ils inventent encore une nouvelle dimension. Tu vois, genre vraiment, c'est... Bref, Mario Galaxy, c'est... Ouais, ouais. Non, mais ça va être le truc, je pense, de cet épisode. Genre, faites ces jeux-là. Tout ce qu'on vient de citer, faites-les.
Et là, les
peut-être
derniers...
pas Crackdown.
à moins que vous ayez une 360, mais je crois que le online, peut-être, il est désactivé faire la démo. Mais non, c'est un jeu qui, je pense, un peu vieilli. Par contre, là, dans les derniers jeux que je voulais citer, il y en a un quand même que je pensais à faire parce qu'il y a eu la Legendary Edition, donc c'est Mass Effect. Pour moi, Mass Effect 1, c'est un des meilleurs jeux de tous les temps. Je trouve que c'est... Les gens préfèrent le 2, alors que je trouve que le 1 est quand même génial. Je trouve qu'il y a un truc avec l'histoire, l'écriture, les choix qui sont imposés avec Shepard, qui sont vraiment super. Tout le monde en a beaucoup parlé de Mass Effect, donc je vais être vraiment bref. Genre, le JDG adore Mass Effect et je comprends pourquoi. Je trouve que c'est l'impact de décision est énorme. Même la cinématographie, entre guillemets, genre la photo des dialogues, dès que on passe de texte classique quoi, dans le RPG à des caméras un peu dynamiques lors des discussions et tout, c'est très rigide maintenant quand on le voit, mais à l'époque c'était assez fou quoi. Genre, comparer ça à Oblivion sorti un an avant, c'est le jour et la nuit. Et ouais, maintenant c'est un peu vieilli, c'est des trucs que si vous voyez ça dans Horizon Zero Dawn, ça vous trouvez ça un peu feignant. Mais à l'époque c'était fou, et je trouve que c'est un jeu qui a une ambiance, une respiration folle. Et les deux autres que je voulais citer, notamment un, c'était Stalker, que moi j'ai pas encore fait, qui est installé sur mon PC et que je vais faire prochainement. Désolé, j'ai pas fait mes devoirs. Mais c'est, voilà, c'est le père spirituel d'une saga que j'adore, qui est Metro 2033. Et cette idée de genre Eurojunk, jeu qui vient d'Ukraine, où ils reproduisent du coup la zone, vraiment genre, là où il y a un peu eu Tchernobyl, etc., truc nucléaire en fait qui a pété. C'est un jeu qui, quand on voit les gens en parler, quand on voit des vidéos, qui a une ambiance vraiment singulière, et surtout le bail vis-à-vis de l'IA, l'idée que tout soit dynamique, qu'il y a un cycle un peu jour-nuit, que les stalkers du coup peuvent s'affronter entre eux ou avec du coup les mutants qui sont dans ce monde, je trouve ça assez fou. Genre, il y a eu du Shenmue avant, mais Stalker, ça met aussi un cap. Ça a une influence forte sur ce genre de FPS un peu post-apo. Mais donc, c'est des jeux qui ont un héritage qui est assez fou. Et se dire que quasiment 20 ans après, là, les jeux qu'on vous cite, hormis quelques exceptions, ils sont pas si vieux pour qu'ils vous tombent des mains. C'est des jeux où vous pouvez à peu près prendre l'effort de l'émulation ou du portage ou du remaster ou du remake pour vous dire « Hey, c'est quoi ? J'ai envie un peu de travailler ma culture JV et de me replonger ou de découvrir ces titres si je les ai pas faits ou si j'étais pas né. » Et chacun de ces titres en vaut la peine.
Ne quittez pas. Vous êtes toujours sur le 93.9 FM. Vous écoutez RNG.
Au-delà de ça, on sait que c'est une année compliquée. Et moi, ce que j'aimerais pointer du doigt, c'est qu'on voit un peu là l'énumération du list, c'est qu'on se rend compte que c'est que des jeux occidentaux, sauf Mario Galaxy, qui est un jeu du coup japonais fait par Nintendo. Ce qui est assez étrange, voilà, on parle de 2007 comme une année mythique, mais c'est que des jeux américains ou européens. Tu vois, on n'a pas cité le jeu japonais, ce qui est quand même assez fou. Donc c'est vraiment un truc qu'il faut noter, c'est que 2007, et c'est une année... c'est une année mythique, surtout du point de vue de l'Occident. Je pense que c'est bien de nuancer un peu ce propos, parce que moi, du coup, dans tout ce bazar, ce que j'ai fait, c'est que je m'étais dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe au Japon, en fait ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et petit cours peut-être d'histoire économique, il n'y a pas si longtemps, mais il y a un truc qui se passe quand même en 2007 qui est quand même, je pense, c'est majeur. C'est la crise économique, la crise des subprimes commence en juillet 2007, et qui va avoir un impact fou, qui va aussi avoir un impact en Europe et en Occident, hein, c'est pas le souci, mais ça va aussi impacter le Japon. Et 2007 est un peu une année importante en règle générale, c'est que on rentre dans une nouvelle ère du jeu vidéo, en partie parce que ça vient un peu confirmer la mort de l'arcade, déjà avait une culture présente en Europe et aux États-Unis. Il y a des salles d'arcade, mais il y a ce truc avec l'arcade, c'est que c'est encore plus important au Japon. C'est-à-dire qu'au début des années 2000, la culture de l'arcade en Occident, elle est déjà un peu morte. C'est déjà un truc un peu niche. On a fait un peu vraiment ce truc de le jeu vidéo se passe sur les consoles. C'est pas le cas au Japon. C'est pas vraiment le cas au Japon. L'arcade reste limite, parce que moi j'ai trouvé des stats. C'est que j'ai commencé à faire des recherches. Et je suis tombé sur un article qui est vraiment hyper, hyper important. Il y a une conférence qui a eu lieu en 2009. Cette conférence-là, c'est la ICEC pour International Conference of Entertainment Computing,
conférence internationale du divertissement numérique ou divertissement informatique, ça comme vous voulez, qui avait lieu à Paris en plus, en 2009, au Conservatoire National des Arts et Métiers. Et c'est une conférence hyper intéressante qui avait commencé au début des années 2000. Et en fait, c'est une conférence qui se veut multidisciplinaire, en fait, où en fait, on va avoir des chercheurs, des développeurs qui viennent parler de jeux vidéo. Et tout simplement, ils font un forum dans lequel ils additionnent, en fait, il y a une sorte de suite d'articles qui est faite sur des sujets en tout genre, vraiment sur tout et n'importe quoi. Par exemple, il y a un article qui est hyper intéressant, vu qu'apparemment, récemment, on parle beaucoup de violence dans le jeu vidéo. En 2009, on avait déjà fait des recherches, en fait, vu qu'apparemment, on a un président qui veut, veut commencer la recherche. Mon gars, on avait fait ça en 2009, t'inquiète, hein, il y a un truc hyper intéressant qui est fait par des Coréens, des gens de Singapour, qui avaient pas, et tenté voilà, de faire de la recherche sur ce sujet. On le faisait en 2009, tu vois, donc tu vois, un truc hyper sociologique sur l'enfance et le jeu vidéo, mais aussi économique, dont un article qui est tout petit, qui tient en une page. Genre, c'est genre deux tweets, genre, c'est vraiment un tout petit truc, mais qui est hyper intéressant. Et du coup, Yukiharu Sambe, qui à l'époque, en 2009, était le directeur exécutif de Taito Corp, qui est l'une des plus grandes entreprises d'arcade au Japon. Et il explique que en 2009, j'ai pris l'année 2009, en 2009, les ventes s'estiment à 20 milliards de dollars. C'est-à-dire que le marché du jeu vidéo a généré 20 milliards de dollars au Japon. Au Japon, hein. Et sur les 20 milliards de dollars, les revenus dans les salles d'arcade s'estiment à 6 milliards de dollars. C'est-à-dire que le marché de l'arcade était encore plus grand au Japon que le marché des consoles et du mobile. Parce que le marché des jeux consoles et tout, c'est 3,5 milliards de dollars. Et le mobile, okay, c'est 2,5 milliards. Mais donc, il dit ouais que c'était la mort, tout ça et tout. Donc, c'est pour mettre ça en perspective. Mais le truc, c'est qu'il y a eu la crise en 2007. Et ce qu'on constate, c'est que la crise de 2007 a créé vraiment une énorme récession sur les années suivantes. Et ce qu'on constate, c'est un immense déclin à partir de 2007. Pour vous l'illustrer, j'ai la stat ici. On va passer voilà, de 8,7 milliards de dollars en 2007 à du coup 6 milliards en 2009-2010. Donc c'est vraiment un déclin qui est fort. Et ça, c'est vraiment culturellement, vraiment au Japon, c'est un impact énorme, en fait, parce que du coup, là, comme je l'ai dit, la culture de l'arcade est vraiment omniprésente au Japon, et c'est en raison, voilà, de vous l'expliquer à cause de la crise économique, ça a eu un impact de fou sur le pouvoir d'achat des Japonais, et donc sur la capacité à tout simplement consommer du jeu vidéo. Et en fait, on est vraiment, du coup, en 2007, malgré voilà, tous les jeux qu'on a eus, ce genre de choses, les super productions, on est dans une ère d'instabilité économique. Je pense que c'est hyper important de le noter. Et par-dessus cette ère d'instabilité, les coûts de développement des jeux, lui, a explosé comparé à la dernière gen. Entre, du coup, la 6e et la 7e génération, on passe dans une ère qui est beaucoup plus instable économiquement, et en plus de ça, les coûts de développement et juste le prix que les jeux voilà, coûtent à produire, vraiment, ça explose.
Mais c'est à cause de quoi que les jeux explosent? C'est vis-à-vis des ambitions techniques?
C'est des ambitions techniques, principalement. Okay. Et vraiment, c'est du coup, on va passer du coup, sur des consoles qui sont capables de faire de la HD, on va vouloir faire des cinématiques en temps réel, ce genre de choses. Le marketing va aussi également jouer un plus grand rôle. On l'a vu avec des Call of Duty, ce genre de choses. Mais en fait, on rentre dans une ère tout simplement d'ultra-industrialisation du jeu vidéo et qui va toucher tout le monde, dont le Japon, forcément. Et pour vous illustrer ça, j'ai pris GTA pour vous montrer un peu la différence entre la 6e et la 7e génération de consoles. Si on prend GTA San Andreas, quoi qu'il arrive, les coûts que je vais donner ici, c'est des estimations, parce que c'est les studios ne donnent jamais ils communiquent jamais leurs stats, mais on peut très facilement, à travers voilà, des interviews, ce genre de choses, estimer à combien coûtait un jeu. Je sais que GTA San Andreas, c'est un jeu qui a coûté à peu près 10 millions de dollars de développement sans marketing. Là où, si on prend du coup le GTA de la génération suivante, qui est GTA 4, là, par contre, c'est une stat qui est quand même qui est avérée, parce que c'est tout simplement le producteur Leslie Benzies, à l'époque, il avait donné une interview pour le Times, dans laquelle il expliquait que GTA 4 avait coûté au moins 100 millions de dollars à...
100 millions?
Ouais. Okay. Ah oui, vraiment, c'est vraiment, on passe de voilà, d'à peu près un peu plus de 10 millions à genre 100 millions de dollars, Mais c'est à nuancer. Tous les jeux à l'époque ne coûtaient pas, en 2007, ça ne coûtait pas 100 millions de dollars. C'est juste pour montrer on est dans une évolution. Et le GTA est, un, est clairement permet de
ouais, un indicateur de ça.
C'est ça. Mais ça ne va pas que toucher. On peut se dire, ouais, c'est que l'Occident qui peut se permettre ce genre de production. C'est faux, par exemple. On peut le prendre... moi, j'ai pris une licence japonaise. Je m'étais dit, bon, l'équivalent de GTA... c'est pas l'équivalent de GTA, vous avez capté, genre en mode une licence au moins aussi, aussi big que GTA, j'ai pris Final Fantasy du coup. Et le Final Fantasy de la 6ème génération, c'est Final Fantasy X qui est sorti en 2001. On parle de 30 à 40 millions de dollars. Déjà pour l'époque, c'était un record. On parle de 30 à 40 milliards de coûts de développement. C'est un jeu qui a pris 3 ans de développement à faire pour une équipe d'à peu près 100 personnes. Et le Final Fantasy de la génération suivante, qui est du coup Final Fantasy XIII, qui est sorti en 2009, on parle de 60 à 80 millions de dollars, voire plus selon certains. Donc on est déjà sur le double de l'ancien, de l'opus précédent. Un jeu qui a mis 4 à 5 ans de développement, parce que c'est un jeu qui s'est mis à outsourcer. Tout simplement, c'est un jeu multi-studio. Il fallait tout simplement délocaliser la production, parce que forcément, c'était un... On est passé, voilà, comme je l'ai dit, de FF10, qui est un jeu à une équipe à près d'une centaine de personnes. FF13 a demandé 200 à 300 personnes. Donc, on a quasiment triplé l'effectif. Donc, pour vous montrer que le jeu vidéo passe dans une nouvelle ère de surindustrialisation, à laquelle, tout simplement, le système occidental, simplement l'industrie occidentale, était prêt à pouvoir faire ce genre de d'immense production. Je pense que c'est vraiment une question de culture. Les États-Unis ont ce truc avec, par exemple, le cinéma hollywoodien. Même en Europe, on a ces capacités de faire de grosses productions avec un énorme marketing. Et forcément, derrière, il y avait ce truc de plus la production est balèze, plus on a besoin d'effectuer des marges. On a besoin que le retour sur investissement
soit assez conséquent.
Le truc, c'est que le Japon, c'est un peu une période qui est un peu sombre. On est vraiment dans une ère qui est extrêmement compliquée au Japon. Parce que, comme tu l'as expliqué tout à l'heure, genre 2007, on retient cette génération-là pour des jeux qui sont occidentaux, mais on va pas avoir vraiment de hit majeur japonais en 2007.
Même si la Wii cartonne.
La Wii cartonne, c'est pas un souci, hein. La Wii, ouais. Ça va, c'est juste qu'en termes de... Moi, je pense surtout à des studios comme Square Enix, Capcom, Konami, ils sont vraiment dans une période qui est vraiment compliquée.
J'ai vu que Capcom, cette année-là, ouais, c'était le portage de RE4 sur Wii.
Ouais, voilà.
Il y a eu un épisode, je crois que c'est Umbrella Chronicles de Resident Evil.
Oh, c'est Return to Raccoon City, je sais plus.
Ouais. J'ai vu un épisode de Wii, c'est un truc...
Capcom n'y est pas, tout simplement. Et vraiment, il y a cette chose de... À ce moment-là, le Japon souffre clairement de cette industrialisation du jeu vidéo. Et surtout, on va avoir l'avènement d'un moteur que je trouve hyper intéressant à voir pour l'époque, c'est l'Unreal Engine 3. Simplement parce que on est dans une logique d'industrialisation du jeu vidéo, et ce que fait le Japon à ce moment-là, c'est du coup, comme on est sur des super productions, on peut appeler ça comme ça, il fallait que le Japon aille chercher des parts du marché sur le continent européen, sur le continent américain, parce que forcément, voilà, le jeu coûte de plus en plus cher, il faut qu'on aille aussi séduire un autre public, pour maximiser le profit. Et on s'en souvient, ces jeux Unreal Engine 3 japonais, je pense à des jeux comme Last Remnant, qui est un jeu Square Enix, qui est sorti début 2008, donc j'ai un peu triché, mais c'est vraiment un jeu qui du coup déjà a pas fonctionné. Square Enix avait du mal à s'en remettre, et c'est pour ça qu'après que FF13 avait totalement abandonné l'idée de sortir sur Unreal Engine 3, ils l'ont fait in-engine. Et en fait, du coup, il y avait vraiment cette mode, c'était vraiment une mode, ce genre de jeu japonais, hyper... qui manquait un peu de personnalité, qui répondait vraiment à un public américain, européen, qui du coup ont des... une culture esthétique, j'ai envie de dire, vraiment différente, en fait, tout simplement. On a une manière différente de concevoir le jeu vidéo en Occident qu'au Japon. Et donc, il y avait vraiment cette mouvance, je pense, à des jeux un peu comme Devil May Cry, qui était déjà présent à la génération précédente, mais on sentait que c'était des jeux japonais qui cherchaient un public jeune, américain et européen. Et du coup, la conséquence de tout ça, c'est que du coup, genre, tous ces RPG-là, bah, pas que des RPG, tu vois, mais tous ces jeux-là manquaient un peu de d'âme, en fait, à vouloir en fait foncer sur directement prendre l'Unreal Engine 3. Tout, pourquoi ? Parce que c'était beaucoup moins cher. Il y avait un truc de... Ça permettait aux équipes... il y avait vraiment une facilité de... Il y avait une accessibilité, en fait. À l'Unreal Engine 3, c'était beaucoup moins cher. C'était un moteur qui était pensé pour la génération de consoles actuelles. Et donc, c'était vraiment, du coup, il y avait un bénéfice à faire quelque chose pareil. Le problème, c'est que derrière, tous ces jeux-là manquaient vraiment de personnalité. Et je pense qu'on peut déjà commencer à mettre en perspective ça avec les... Aujourd'hui, vous prenez tout ce que je viens de dire, vous remplacez Unreal Engine 3 par Unreal Engine 5 et on est littéralement dans les mêmes problématiques, en fait. Tout ce qu'on peut entendre aujourd'hui, tous ces reproches sur l'Unreal Engine 5, a raison, hein, je dis pas le contraire, hein, que vraiment, c'est un... On parle de UE5 slop.
Ouais, UE slop. Ou
genre vraiment, c'est des jeux voilà, qui se ressemblent tous, ils ont pas vraiment d'âme et de personnalité. Bah, c'est quelque chose qu'on... C'est les mêmes reproches qu'on faisait à l'époque sur l'Unreal Engine 3. Sauf qu'à l'époque, c'était le Japon. Aujourd'hui, c'est plus le marché coréen, le marché chinois qui utilise l'Unreal Engine 5. Donc, c'est une période assez bizarre, mais pour vous montrer qu'en fait, la thèse de tout ça, l'idée que je veux défendre, c'est qu'en fait, 2007 est un peu l'an 1 du gaming moderne. C'est un peu l'an 1 de le début de toutes ces problématiques-là. Et elles permettent un peu de remettre en perspective, parce que aujourd'hui, quand on parle de 2007 et un peu de cet intervalle 2006-2010, c'est vraiment vu comme une génération un peu dorée, vraiment à un moment, il y a une forte, forte, forte nostalgie pour cette époque-là. Moi, le premier, hein, j'ai kiffé, tu vois, c'est pas le souci. Mais il y a vraiment ce truc de « Ah, le jeu vidéo était vraiment... C'était mieux à ce moment-là, tu vois. » Et moi, je suis en mode « Pas sûr. » Je trouve qu'il faut le mettre en perspective, je suis vraiment pas sûr. Parce qu'en fait, cette époque-là était drivée par les mêmes problématiques qu'on le retrouve aujourd'hui. C'était vraiment, du coup, des jeux qui commencent à coûter beaucoup plus cher, qui demanderaient d'être outsourcés. Vraiment, c'est des super productions qui jouent aujourd'hui. Voilà, je vous l'ai dit que FF13 coûtait à peu près 60 millions de dollars. Aujourd'hui, on se retrouve avec des jeux... On n'a pas fini la boucle, hein. Aujourd'hui, on se retrouve avec des Concorde qui coûtent plus de 200 millions de dollars. Là, GTA 6, bon, c'est une exception, mais on parle presque d'un milliard. C'est pour vous montrer qu'on ne s'arrête jamais. Et s'il y a bien un début à tout ça, c'est 2007, en fait. Vraiment, c'est à ce moment-là où l'industrie du jeu vidéo passe un cap. Et le Japon a vraiment eu beaucoup de mal à se mettre au pas, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, le Japon est vraiment... on peut le mettre en perspective. Aujourd'hui, le Japon est dans une forme, depuis le début de la 9e génération. Vraiment, je pense que le Japon a clairement... est peut-être dans une nouvelle vague d'une ère qui se veut un peu prospère. Mais voilà, du coup, c'est un peu... Je sais pas si toi, Ulysse, t'es d'accord avec moi, cet aspect de 2007 met en place, en fait, des problématiques qu'on retrouve encore aujourd'hui.
Ouais, je suis tout à fait d'accord. Pour moi, c'est un peu la conclusion, c'est que le jeu vidéo, il a évolué depuis 2007, bien évidemment. Voilà, genre, tous les jeux qu'on a cités, même, tu vois, des FF13 ou des trucs comme ça, c'est souvent des jeux qui, tu sais, ont pas forcément été aimés par la critique, ou en tout cas, les tests étaient forcément mitigés. C'est des jeux qu'on posait les bases des suites après qui ont été meilleures ou qu'on repris des mécaniques pour les améliorer. Et donc, en soi, la nostalgie dont tu parles, ce truc de « Ah putain, c'était mieux avant », oui et non. Il y a des titres, personne n'a... Enfin, on vous les recommande, ces jeux, mais c'est intéressant de les mettre en perspective avec leurs évolutions, soit au sein de leur saga, soit au sein des clones, entre guillemets, qu'ils ont créés, en fait, leurs rejetons, mais dans le sens... Enfin, il n'y a pas de jugement de valeur, quoi. Vraiment juste les rejetons de ça, en fait. Leurs héritiers. Et donc, je trouve que, ouais, ça a évolué, mais ça a aussi régressé, en fait, sur certains points. C'est qu'on voit, en effet, on parle d'Unreal Engine Slop. Moi, le problème que j'ai avec l'Unreal Engine 5 actuellement, comme il y en avait qui trouvaient que Unreal Engine 3, c'était un truc où visuellement tout était trop similaire. Ça faisait un peu comme dans l'animation, en fait, aux États-Unis avec Pixar, où pendant une bonne dizaine d'années, même 15 ans peut-être, tous les films d'animation en 3D se ressemblaient. C'était les mêmes gros yeux, c'était les mêmes styles de pattes graphiques, et donc il y a une forme de norme en fait qui se met en place, parce que c'est plus simple, comme l'a dit Swill, pour trouver des effectifs, pour les faire travailler, pour recruter. Mais donc à la fin, on a l'impression qu'en fait, tout se fait dans le même moule. Tous les plats sont faits avec la même casserole, les mêmes ingrédients. Et donc même si vous rajoutez un peu de piment par-ci par-là, c'est pas si différent, c'est un peu grisâtre, c'est un peu jaune pisse, n'est-ce pas ? Donc, je trouve qu'il y a une boucle un peu qui s'est reformée là avec l'Unreal Engine 5, où il y a des titres où on se dit « Ah, c'est l'Unreal Engine, ça se voit tout de suite au niveau des assets, de la façon dont ça va gérer le denoising, c'est-à-dire la façon de débruiter l'image. » Moi, c'est le vrai problème que j'ai avec l'Unreal Engine 5, et je trouve qu'il n'arrive pas à gérer...
Surtout dans les ombres.
ouais, le ray tracing, il n'arrive pas à vraiment bien débruiter ça, sauf si vous pouvez passer avec, donc, au-delà du lumen, l'aspect ray tracing software dont on a déjà parlé, vous le mettez en hardware, c'est mieux, sauf que c'est hyper gourmand, etc. Mais là où moi je trouve que ça a régressé depuis, c'est que faut se dire que quand même 2007, c'est une période charnière parce que c'est quand même avant les DLC et les microtransactions. On n'est pas encore à ce moment-là, en fait. On est vraiment au début où là, vous achetiez un jeu, vous l'aviez encore. Le Guitar Hero qui sortait, vous aviez vos musiques et tout. Vous aviez, quoi, parce que je ne l'ai pas cité, mais c'était la période où ouais, les Rock Band Guitar Hero aussi cartonnaient et ça me faisait rire de revoir des vidéos de « bah oui, c'était un phénomène ». Pendant genre quelques années, les gens kiffaient jouer à ça, South Park a fait un épisode et tout. Et donc, ouais, c'était une période où vous achetiez un jeu, il était complet, c'était cool. Maintenant, voilà, donc on a régressé, on s'est éloigné de ça. Il y a le dématérialisé qui maintenant est omniprésent. Ça, ça se sent aussi de par, bah, en fait, la démocratisation des aspects techniques. Et ça, c'est ce qui est intéressant de voir, c'est que bah, 2017, c'est la démocratisation du HDMI, c'est la démocratisation de la HD. Genre se dire que 20 ans après, ce sera 20 ans l'année prochaine, la norme s'arrête le Full HD. Pour regarder les charts Steam, donc les statistiques Steam, les moniteurs les plus utilisés par les utilisateurs, c'est genre du Full HD, c'est de la 1080p. Il y en a qui vont en 4K, moi je suis en ultra-wide et tout, mais le 1080p reste omniprésent. C'est la résolution qu'on vise sur des consoles portables, genre les nouveaux Légions, etc. et tout. C'est ce qu'on vise sur des résolutions internes de rendu. En général, même sur PS5, un jeu qui va subscale, donc viser de la 4K, il va être en résolution interne à de la 1080p, ou moins si c'est trop gourmand, notamment chez Unreal Engine. Et donc, on a posé ces bases-là techniques, on a posé celles du jeu en ligne avec le Xbox Live, le PS Plus, à l'époque c'était quoi? C'était le PSN, PlayStation Network. Et donc, ouais, qu'est-ce qu'on... La conclusion, c'est genre, bah, il y a des choses qui sont plutôt cool qu'on a attirées de tous ces jeux-là, qui sont des jeux marquants, qui ont laissé un héritage dans le gaming moderne assez fascinant. Et en effet, je comprends qu'il y a une forme de nostalgie de penser à un jeu vidéo avant qu'il y ait une crise économique, avant qu'il y ait une industrialisation, qu'il y ait des projets énormes qui vampirisent en fait des ressources stratosphériques. Voilà, je comprends. Pour terminer, je pense qu'on peut parler de nos recommandations. Genre, par rapport à des jeux sortis en 2007 ou vraiment qui sont à la limite. Mais vas-y, je vais laisser Soul commencer du coup.
Moi j'ai un jeu. C'est un jeu qui est sorti en 2007 au Japon, du coup ça compte, mais qui est sorti en 2008 en Occident. C'est Professeur Layton et l'étrange village.
Let's fucking go.
Et j'ai pris un jeu DS parce que déjà c'est un jeu qui n'a pas vieilli visuellement parce que c'est absolument magnifique. Voilà, c'est de l'animation hyper léchée. Encore aujourd'hui, genre c'est vraiment un petit bijou d'animation ce jeu. Et déjà c'est hyper accessible, vous le trouvez sur mobile encore maintenant en haute définition. Donc tout le monde a un téléphone, tout le monde peut se le procurer très facilement. Mais c'est un jeu qui est tellement mignon et qui dénote tellement du coup de tout ce qu'on a dit, le côté hyper action, toi t'as parlé d'FPS, d'immersive sim, dans tout ça il y a un jeu voilà, de Level 5, c'est le studio qui l'a fait, je crois que c'est Capcom qui édite, je suis pas sûr.
Okay.
Et voilà, vous suivez les aventures du coup du professeur Layton et de son acolyte Luke, je crois qu'il s'appelle Comas. Et en fait, il reçoit une lettre d'un baron d'une ville qui s'appelle Saint-Mystère. Saint-Mystère, donc voilà, c'est un jeu d'énigmes hyper cool où vraiment, parfois, vous allez avoir de la logique, vous allez avoir des petites énigmes de mathématiques si vous aimez les chiffres, ce genre de choses. Et non, c'est l'histoire est vraiment cool, c'est un charme vraiment. Donc, faites l'étrange village et si vous avez kiffé, faites la boîte de Pandore aussi qui est sortie après. Franchement, Professeur Layton, c'est la frappe. C'est vraiment trop, trop bien. Et c'est vraiment dommage que c'est une licence qui est un peu morte aujourd'hui. Parce que c'est...
Bah, normalement, il y a un prochain jeu qui est censé sortir.
Le problème, c'est que c'est pas Level 5. C'est un peu le souci avec les derniers opus de la licence. Mais franchement, en fait, les deux premiers, c'est sublime. C'est vraiment trop, 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 trop bien.
Ouais, j'approuve de ouf. Et du coup, pour rester dans la même vibe, bah, moi, j'ai un autre jeu, Puzzle Game, évidemment, dont j'ai envie de parler. Que je ne l'ai pas cité parce que c'était fait exprès. Bah, c'est Portal. Le premier Portal donc de chez Valve, pour moi c'est le meilleur puzzle game de tous les temps, genre il se pose là en fait. C'est un jeu qui donc utilise le moteur Source, voilà, qui a été utilisé pour Half-Life, Team Fortress 2 sorti la même année, et qui faisait partie de la compilation The Orange Box, vraiment la compilation là qui réunissait donc plusieurs jeux dont Half-Life 2, le Bay Episode, Team Fortress 2 et donc Portal.
La vache.
Et ouais, c'est peut-être le meilleur pack de jeux genre compilation jamais fait. Et en fait, il n'y a rien à dire sur Portal. Genre, il y en a qui préfèrent Portal 2, je comprends. Mais le jeu se finit hyper vite. Je pense que si vous le connaissez par cœur, vous pouvez le torcher en une heure. Moi, je l'ai refait, ça m'a pris 3 heures. Parce que je voulais faire en plus tous les niveaux bonus et tout. Mais qu'est-ce que c'est bien. C'est une leçon d'écriture. Genre, vraiment, l'écriture même environnementale qu'il y a avec les salles, le coup du gâteau. Je ne vais pas le spoiler pour le coup si vous ne l'avez pas fait. Mais c'est un jeu qui me reste tout le temps en tête. Quand je fais un puzzle game, quand je vois des viewfinder, des superliminal, donc toute la vague d'autres jeux là-dessus, en fait, je reviens à Portal.
Des Talos Principles.
Ouais, voilà. Mais il y a un truc vis-à-vis des portails, l'idée que ce soit kinétique. Moi, tu mets ton portail, si tu sautes dedans depuis genre 15 mètres,
c'est dynamique,
ta vitesse. C'est hyper, hyper bien réfléchi et pensé. Je sais qu'en plus, à la base, c'était un concept fait par des étudiants. Je sais pas si c'est en mode game jam ou autre. Donc, ouais, vraiment concept de fou, jeu incroyable à faire.
C'est marrant que on parle de 2007 et c'est avec des jeux d'action de ouf et nous on est là en mode hey, deux jeux de puzzle. Non mais c'est pour vous montrer qu'il y a eu quand même d'autres titres.
Ah oui, mais c'est une année qui est hyper riche sur plein de genres. Et le deuxième titre que je voulais citer pour finir, moi du coup, c'est Stranglehold et c'est un jeu par John Woo. C'est la suite de Hardboiled, donc de À toute épreuve, donc film d'action, genre peut-être par essence vraiment le film d'action des années 90 et tout. Et c'est la suite officielle en fait du film, c'est fou. Et à l'époque, j'avais fait la démo. Et je trouvais ça incroyable, c'est vraiment du Max Payne avec un skin donc de Chow Yun-Fat en agent tequila. Et donc vous avez du bullet time, c'est de l'Unreal Engine 3, donc c'est hyper dynamique, genre vraiment tout peut être destructible, les ennemis réagissent à où vous leur tirez dessus, il y a des finish moves selon aussi l'arme que vous avez, tout ça. C'est incroyablement fun, et c'est pas un classique, c'est pas un jeu où je vous dirais « Ah merde, je joue tous les temps, on n'y a rien », mais ça me... là il y a une part de nostalgie où moi ça me ramène à un temps où cette période-là, surtout PS2, celui-là, on parlait en off, mais vous aviez des jeux sortis de licence, on ne sait pas pourquoi, genre un jeu...
Madagascar,
Transformers, Ratatouille. Et là, c'est quand même un pari assez osé de se dire, avec donc Midway, et vraiment en étroite collaboration avec John Woo, de se dire, vas-y, on va vraiment faire une suite à cette espèce de film qui est quand même hyper apprécié, qui est vraiment un film culte en Asie, et de se dire, ok, on va en faire un jeu d'action, mais vraiment réfléchi avec un vrai level design qui n'est pas juste un truc d'exploitation. Et c'est hyper rafraîchissant. Il est sur GOG, sur PC, donc vraiment, il tourne encore sur des machines actuelles. Il tourne super bien. C'est hyper beau encore. C'est charismatique de ouf. Il y a des colombes dans tous les sens. Ça pète, ça explose. C'est un excellent jeu, un excellent titre. Et si vous pouvez y jouer sur une 360 ou PS3, c'est encore super. La cover, je trouve qu'elle est magnifique. Elle est genre rouge et blanche, avec une espèce de flou artistique et tout. Donc voilà, vraiment un jeu de cœur et que je vous recommande.
Cool. Bah merci pour tes recos. Voilà, faites Portal, faites Professeur Layton et le jeu de John Woo. C'était RNG, Radio Campus Paris 93.9 FM. C'était un super épisode, voilà, rempli de nostalgie. Nous, c'est une époque, bon, on était tout jeunes, mais qui nous a drivé. C'est une génération spéciale. C'est vraiment une génération spéciale. Genre vraiment la 7e génération PS3 360 Wii DS, il y a quelque chose en fait. Y a quelque
dans
chose.
Les propositions en fait. Ouais. Soul l'a dit quand on dit nos recommandations c'est des puzzle games, c'est il y a tellement une effervescence de plein de jeux différents. Mm-hmm. Même tu vois, on n'a pas parlé de jeux indé, mais avec le Xbox Live ou le PSN, dit putain, c'est le moment où je sais pas, il y a un champ des possibles et on touche un peu ça du doigt avant du coup l'industrialisation et la normalisation aussi des productions. Donc c'est fascinant de s'y replonger, ouais. Franchement, c'était un plaisir.
On se dit au mois prochain pour un nouvel épisode. Passez une excellente soirée, jouez à des jeux. Achetez une PS3, ça coûte que dalle avant que les millennials les revendent pour 400 balles. Merci Ulysse.
Merci à toi, Swin.
C'était RNG, Radio Campus Paris 93.9 FM. Je vous fais des bisous et on se dit au mois prochain pour un nouvel épisode. Ciao.
Ciao.
First, the basics of particle blast deflection. Dude, I could beat gaming.